Bonjour. Choisir un vin, c'est souvent toute une histoire. Devrais-je plutôt prendre cette cuvée que je connais bien pour la faire découvrir autour de moi, ou vais-je me lancer dans la découverte au risque d'être déçu, interpellé, bousculé par quelque chose de nouveau, de bizarre ? Découvrir une nouvelle cuvée d'un domaine, d'une appellation que j'affectionne, ou partir vers l'inconnu à la recherche de nouveaux horizons, de cépages, de climats, de méthodes ? Comme toujours, la vérité n'est jamais univoque et nous sommes tous tentés parfois par les deux approches, et c'est tout le travail du caviste que de nous orienter vers ce qu'on aime tout en nous faisant découvrir de nouveaux goûts. D'autant que le paysage est sans cesse mouvant, nouveaux millésimes, nouveaux domaines, et ils sont nombreux chaque année, et même de nouvelles appellations, nouvelles ou méconnues, qui cherchent à faire entendre leur voix dans le concert de communication et leur place sur les étagères des caves et les cartes des bars à vin. De quoi toujours renouveler le plaisir des explorateurs et exploratrices que nous sommes. Ce 69e épisode s'intitule « Entre Nord et Sud, bienvenue à Grignan-les-Adhémars, bienvenue dans la Terre à Boire ». Quel plaisir de vous retrouver pour ce début de saison du millésime 4 de la Terre à Poire. Un petit peu de fierté quand même, hein, ça fait plus de 3 ans maintenant qu'on est là. Pour fêter cette rentrée, à mes côtés, Bertrand du podcast La Grosse Bouffe, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. On est ravis de t'accueillir, Bertrand.
Merci, salut Romain, salut à tous.
Ça va bien ?
Nickel, je te remercie.
Bouffe et jeux vidéo ?
Ouais, le 21 octobre, prochain épisode.
De La Grosse Bouffe,
un podcast voilà, qui... tous les 21 du mois, un podcast qu'il est bien écouté.
Et qui tient la route depuis... combien d'épisodes maintenant alors ?
Bah écoute, 36.
Bravo.
Ça, ça fait 3 ans quoi.
Bravo. Donc, voilà. 3 fois 12. Et à tes côtés, Laurent Delceau. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Du Wine Therapy, toujours rue de Montholon, à Paris 9e.
Exactement.
Voilà, les temps sont durs, alors il faut y aller, mais le bar est toujours là, la sélection de vin est toujours là, et il y a toujours Laurent pour vous faire découvrir des belles cuvées.
Toujours les bienvenus au Wine Therapy.
Alors, on va parler, comme je l'ai dit un petit peu en intro, d'une appellation qui n'est pas inconnue, qui n'est pas complètement nouvelle, tu vas nous en dire un peu plus, Laurent, mais qui n'est pas extrêmement connue, qui est une de ces petites appellations qu'on a envie de mettre en avant. Vous allez nous dire un petit peu qu'est-ce que vous ressentez pour ces vins, une appellation, qu'est-ce que c'est au fond ? C'est des vignerons talentueux, énergiques, motivés, qui font émerger comme ça une marque sur un territoire qui est quand même déjà très très occupé. On va en parler tous les trois, et puis on va en parler aussi avec un invité. Qui est bien placé pour nous parler de l'appellation Grignan-les-Adhémars. Bonjour Henri Bourg.
Bonjour.
Vous êtes vigneron au domaine de Grange-Neuve et vous êtes un des artisans majeurs du développement de l'appellation Grignan-les-Adhémars puisque vous en étiez le président d'appellation pendant une dizaine d'années.
Je dirais même une quinzaine d'années, oui, particulièrement à l'époque du changement de nom de l'appellation.
Voilà, on va.
En 2008-2010.
On va revenir effectivement sur ce travail que vous avez mené et le changement de nom, notamment. Et au préalable, j'ai envie de vous poser une question à tous les deux. Bah, Laurent, toi qui a eu, c'est toi qui avais envie comme ça et qui a amené ce sujet sur la table de parler de Grignan-les-Adhémars. Qu'est-ce qui, voilà, pourquoi tu avais envie de parler de cette appellation ?
Alors pour un tas de raisons en fait, comme vous le savez sans doute, j'ai fait ma formation en sommellerie à Suze-Larousse, donc tout près de Grignan-les-Adhémars que j'ai pu découvrir pendant cette formation, c'est la première raison. La deuxième, c'est que je suis retourné récemment avec tout un petit groupe de cavistes et j'étais accueilli par Henri Bourg et nombre de ses collègues de façon très très sympathique. Et enfin la troisième, c'est que cette année, on fête le 10e anniversaire de l'appellation en tant que Grignan-les-Adhémars. Donc je pense que ça faisait un bon faisceau de raisons pour se rendre dans cette très très belle région de la Drôme provençale.
Bertrand, c'est une appellation que tu connais, ça t'évoque quelque chose, a priori, comme ça, en dehors du fait que tu as préparé un petit peu cette émission ?
Moi, ça m'évoque surtout la douceur de vivre, hein. La Drôme provençale, j'ai eu la chance d'y aller en vacances, comme beaucoup de monde, et de découvrir cette région où il fait bon vivre, où il fait beau, il y a des bonnes choses à manger, et en plus, il y a plein de châteaux forts, moi j'adore les châteaux, donc ça avait tout pour me plaire, et voilà, on rentre à Paris, à les étoiles plein les yeux, quand on va en Drôme provençale.
Henri Bourg, aidez-nous à placer Grignan sur la carte des vins. On est en Côte-du-Rhône. En fait, on est entre le nord et le sud.
On n'est pas tout à fait en Côte-du-Rhône.
Ah, voilà.
Vous savez que dans la
Merci de rectifier mes bêtises.
Il y a Voilà, il y a les Côtes-du-Rhône et il y a les autres qu'on a appelés les nouvelles appellations du Rhône, qu'on a appelés les satellites,
voilà,
qu'on a appelés au fil des années de différentes façons. Alors les autres, c'est les Ventoux, les Luberon, les Costières de Nîmes, les Grignan, les Adhémar, notamment. Voilà, ce sont surtout ces quatre appellations. Maintenant, il y a aussi les Côtes du Vivarais et quelques autres. Je pense aussi Uzès, qui fait partie maintenant aussi des AOP. Donc vous voyez, il y a 5-6 appellations qui viennent compléter l'offre de la vallée du Rhône et qui sont exclues des Côtes-du-Rhône et de la classification des Côtes-du-Rhône. Elles ont leur vie à part. Voilà, elles mènent leur barque toutes seules.
Juste géographiquement, pour qu'on se rende compte, on est à la hauteur de Montélimar à peu près ?
Alors, on est le nord du sud.
Voilà.
Voilà, donc il y a le Rhône nord, le Rhône sud qui commence à partir de Montélimar. Et nous, on est tout près de Montélimar, à une douzaine de kilomètres au sud. On s'étend à l'est jusqu'à Grignan et au sud jusqu'aux confins de Suze-la-Rousse, c'est-à-dire la commune d'à côté, la Baume de Transit. Voilà, ce sont 21 communes, 1750 hectares de vignes. Voilà.
Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu justement du type de vin que vous faites à Grignan ?
Alors, Grignan fait des trois couleurs, bien sûr, blanc, rosé et rouge, avec une majorité de rouge environ, 70% de rouge. Pas de priorité au rosé, bien que là aussi on sent la tendance rosé, mais plutôt priorité au blanc, parce qu'on a de très beaux cépages que sont les Viognier, Roussanne, Marsanne, et qui nous permettent de faire de belles propositions sur ces vins-là, avec encore une certaine fraîcheur, puisqu'on est le nord du sud, c'est toute notre différence. Voilà, c'est qu'on est placé dans le sud du Rhône, mais on est vraiment entre les deux, entre le nord et le sud, et donc encore dans les vins, malgré le réchauffement climatique, beaucoup d'équilibre et une certaine fraîcheur.
Très bien.
Donc,
en termes de cépage,
des vins,
peut-être
en termes de cépage, je vous ai dit pour les principaux, pour les blancs. Pour les rouges, bah, c'est surtout le duo Grenache-Syrah. Mais avec beaucoup de Syrah, enfin, chez moi, à Grangeneuve, on a 50% Grenache, 50% Syrah. Sur l'appellation, je crois qu'on est maintenant aux environs de 36% de Syrah. C'est l'appellation du Sud qui a le plus de Syrah, et pour beaucoup de raisons, parce que la Syrah y vient très bien, et aussi parce que l'ODG a mis l'accent sur deux cépages que sont le Viognier pour les blancs et la Syrah pour les rouges.
Alors justement, on est en train de servir un de vos vins là, parce qu'en fait on a l'habitude de déguster des vins au cours de l'émission, et donc on a votre cuvée des Dames du Sud qui est en train d'être des Dames Blanches du Sud,
oui.
Pardon, qui est en train d'être servie. Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu ?
D'accord. Alors les Dames Blanches du Sud, c'est typiquement un vin blanc qu'on peut déguster et trouver dans l'appellation. Il a beaucoup de concurrents et de vins qui se rapprochent de cet assemblage, qui contient 50% de Viognier, de la Marsanne, de la Roussanne et du Grenache blanc. Quatre cépages avec un objectif de vin plaisir, de vin équilibré, d'avoir une belle expression sur les fleurs et le fruit, et une belle tenue en bouche. Voilà. L'objectif sur les blancs pour nous, ça va être l'expression de ces beaux cépages du nord de la vallée du Rhône, hein, Marsanne, Roussanne et Viognier, mais aussi de garder de la fraîcheur, donc de les vendanger pas trop tard, afin également de pas avoir de gros degrés, de rester autour de 13,5 pour que le vin soit agréable à déguster.
Oui, on a un vin qui est effectivement très aromatique, avec une belle ampleur, mais qui garde une certaine fraîcheur. Vous nous le recommanderiez sur quel type d'accord ?
Alors bien sûr, sur l'apéritif, ça va marcher très très bien. Vous pouvez aussi sur tout ce qui est fromage de chèvre et fromage de montagne sec.
Avec le Picodon.
Un bel accord avec le Picodon, bien sûr, de notre région. Et puis, vous pouvez également le prendre sur des quenelles à la lyonnaise. Ça ira très bien. C'est sûr. En fait, sur
vous jouez sur les deux tableaux.
Non, c'est mais même sur
gastronomie provençale et lyonnaise.
Ouais, voilà, oui, parce que Lyon, non seulement c'est une terre de belle gastronomie, mais en plus, C'est aujourd'hui un des principaux marchés pour Grégoire-les Adhémars. Voilà. En dehors de la région.
D'accord.
On est très bien implantés les uns les autres sur Lyon. Voilà.
Alors, je disais justement que vous fêtiez les 10 ans de l'appellation cette année. Mais en fait, l'appellation est beaucoup plus ancienne que ça. Vous voulez nous parler un petit peu de l'histoire et de ce à quoi vous avez œuvré?
À l'origine, il y avait les Coteaux du Tricastin, qui sont nés en tant qu'AOC en 1973. Et ces Coteaux du Tricastin avaient bien du mal à émerger, à éclore, pour tout un tas de raisons. Depuis la structure de la production, qui est majoritairement pour les Coteaux du Tricastin, majoritairement donc coopérative Côte-Turode, sur lesquelles les Tricastins n'étaient pas donc la priorité, puisque pas de la même famille, tout à fait. Ensuite, parce que on manquait peut-être de caves particulières dynamiques, et puis parce que peut-être que nos vignerons, en général, ne faisaient pas assez d'efforts qualitatifs. Et puis là, il y a eu au fil des années le poids du nom. Ce nom qui, au départ, ne posait pas problème, parce qu'en 1973, il n'y avait pas beaucoup d'écolos, mais au fil des années, et à la prise de conscience de ce sentiment écologiste, il y a eu de plus en plus un effet négatif autour du nom, parce que... Oui.
C'est le nom de la centrale. C'est une association d'idées qui n'est pas très heureuse quand on parle de vin, parce que le Tricastin dans la région est connu parce que c'est la centrale nucléaire qu'on voit quand on descend sur l'autoroute.
Je dirais que le Tricastin est connu en France surtout pour la centrale nucléaire, et le vin passé est passé loin derrière. Et donc, quand on prononçait notre nom, on était, dans une première étape, toujours attaqué sur la présence de la centrale, et on passait notre temps, en fait, à nous défendre. Il fallait se défendre avant de pouvoir parler du vin et de ses qualités. Donc, c'était devenu très, très difficile. Et en 2008, il y a eu, pendant l'été 2008, une dizaine ou une douzaine d'incidents mineurs, mais que la presse et s'est empressé de mettre en avant, parce qu'il n'y avait sûrement pas grand-chose à dire cette année-là, non seulement la presse française, mais la presse internationale, et ça a été dramatique, ça a été un effet désastreux. Les journalistes venaient en région et allaient voir presque tous les vignerons, parce que nous étions les seuls à avoir l'obligation de vendre nos produits avec le nom Tricastin, quoi qu'il arrive, puisqu'en tant qu'AOC, nous devons le faire figurer sur notre étiquette. Alors, un producteur de tomates pouvait changer de nom du jour au lendemain, oublier de mettre une marque. Nous devions continuer à soutenir cette marque, et c'était très compliqué.
Et donc, ça a été ce changement de nom, c'est l'acte fondateur d'une nouvelle dynamique, en fait. C'est un ensemble de choses qui démarrent.
Le plus grand mérite de ce changement de nom, ça a été de réunir les vignerons autour d'un nouveau projet, de faire table rase de ce qui se faisait, de faire un nouveau cahier des charges plus restrictif et d'embarquer tout le monde dans cette aventure, parce que c'était la dernière chance qui nous restait, parce que on était tous très démoralisés, on avait baissé les bras, et là, on avait l'occasion d'avoir une deuxième chance, c'est très rare. Et j'en profite pour remercier Yves Bénard, qui était le président de l'INAO à l'époque, en 2008 et jusqu'à 2010, et qui m'a beaucoup appuyé, qui a compris le sens de notre démarche, et qui a permis qu'en 2 ans, on puisse faire quelque chose qui ne s'était jamais fait à l'INAO et en France, et alors que normalement, pour une démarche quelconque à l'INAO, c'est au moins 5 à 10 ans. Voilà. Et
est-ce que vous pouvez nous parler du choix du nouveau nom? Alors, pourquoi Grignan-les-Adhémars?
Alors, Grignan, c'était obligatoire dans le nom, puisque la seule marque qualitative, non qualitative de notre petit microcosme, c'était Grignan. Donc Grignan, c'est le château, c'est les Madames de Sévigné, c'est toutes les manifestations culturelles qui se passent à Grignan pendant la belle saison. C'est plus de 200 000 touristes qui viennent tous les ans. Donc Grignan, il fallait que ce soit un nom.
C'était la pépite qui vous permettait de briller sur l'étiquette.
Voilà, exactement. Alors, les Adhémars, je vais passer un peu sous silence quelques négociations pas toujours très agréables, mais ça a été un compromis. un compromis je dirais, avec d'autres vignerons, d'autres appellations qui nous entourent. Voilà. Parce que Grignan tout seul, ça faisait village. Mmh. Et que nous n'étions pas dans la hiérarchie et dans les villages. Donc voilà. Donc on a habillé Grignan avec les Démarres. C'est la famille noble qui a régné sur la région pendant des siècles et qui a régné sur Grignan pendant plus de 2 siècles, je crois. C'était les châtelains de Grignan. Voilà.
À propos des...
Et donc on a...
Oui, pardon. Allez-y. Oui.
Et donc on a trouvé ce nom sympathique, un petit peu difficile à prononcer pour un étranger, mais en France, ça finit par avoir beaucoup de charme. Voilà.
C'est ça fait partie du charme. À propos des vignerons, justement, que vous avez emmenés dans cette démarche, vous avez rencontré beaucoup de réticences, ou au contraire, une vraie dynamique commune. Ça a été un combat difficile, en dehors du combat de Lianao que vous avez peu décrit.
En interne, ça a été un petit peu compliqué, jusqu'à ce mois d'août 2008, où là, vraiment, les vignerons avaient tellement baissé les bras qu'ils se sont laissés faire et ils ont accepté de se jeter du haut de la falaise sans être sûr que le parachute allait s'ouvrir. Voilà. Mais il n'y avait plus beaucoup d'autres choix, donc ils m'ont fait confiance, parce que j'ai vraiment été le porteur de cette idée, un petit peu en désespoir de cause, et convaincu surtout que ça pouvait vraiment être une partie de la solution, si ça n'était pas la seule raison. Il fallait pouvoir afficher à côté que l'appellation était différente de ce que était Coteaux du Tricastin. Et donc, la différence, c'était la qualité.
Oui.
Et la qualité, venait du cahier des charges et de l'Union sacrée des vignerons pour le faire. Voilà.
D'accord. Quand vous parlez de qualité, donc, vous avez significativement baissé le rendement autorisé.
C'est cela. On a baissé le rendement autorisé. On a exigé progressivement, on y arrive maintenant, donc, au 30% obligatoire d'encépagement de Syrah pour les rouges et 30% d'encépagement obligatoire de Viognier sur chaque exploitation.
Ça, c'est une, Syrah Viognier, du coup, c'est une façon de s'accrocher un peu au Nord, non? C'est deux cépages plutôt emblématiques du Nord.
Et il vous a pas échappé que les Nords étaient très qualitatifs.
Mmh. Donc, il y a de la qualité un peu au Sud aussi, si vous vouliez vous rapprocher de Châteauneuf, etc.
Franchement, mais c'est pas le style de nos vins.
D'accord.
Réellement, sur le plan du terroir, et dans le terroir, j'ai mis le climat et le reste, il y a vraiment une plus grande réussite sur ces cépages-là que sur le Grenache. Le Grenache, n'oubliez pas que jusqu'à présent, la limite nord de culture du Grenache en AOP en France, c'était Grignan-les-Ademars. Il n'y a plus de Grenache au-delà.
Mais voilà, aujourd'hui, est-ce que la question ne se pose pas justement de revoir ça, parce que il me semble que
alors, le réchauffement climatique... Dans un premier temps, oui, c'est certain qu'aujourd'hui, on souffre tous de ce réchauffement climatique et que Syrah et Viognier ont un petit peu de mal. Donc, ça veut dire que à l'intérieur de nos exploitations, il faut peut-être les repositionner progressivement sur des parcelles un petit peu différentes, puisque nous avons le choix. Hein. On a une appellation qui est en cours de redélimitation, mais qui a un potentiel de plantation qui est très important, hein, puisque on va sûrement rester sur 8000 hectares à peu près, alors que nous en avons que, allez, mettons 2000 de plantés. Donc, on a encore beaucoup de possibilités. Et donc, il y a une meilleure réflexion sur les porte-greffes, sur les clones. Voilà, tout le monde travaille dans ce sens pour essayer de faire en sorte de pouvoir continuer sur les mêmes cépages. Il y a une solution provisoire aussi qui est le goutte à goutte. Donc, certains, dont moi, nous avons commencé il y a 2-3 ans à installer quelques parcelles avec du goutte à goutte.
Donc, ça veut dire arroser les vignes.
Ouais, tout à fait. Comme on le fait dans le monde entier, hein, et comme l'INAO l'autorise en France, dans les AOP depuis 2 ans maintenant, hein, depuis la grosse sécheresse de 2017, hein, l'INAO, sauf si la cahier des charges l'interdit, autorise maintenant l'irrigation des vignes sous de grosses contraintes, hein, puisqu'il y a quand même une très grosse surveillance.
Donc on a compris que vraiment l'identité donc de votre appellation, vous aviez envie de la baser donc sur la Syrah en rouge et le Viognier en blanc. Et outre l'encépagement, selon vous, comment vous pourriez définir la spécificité de Grignan?
Moi, je dirais que c'est l'harmonie des vins. C'est vraiment une espèce de combinaison un petit peu miraculeuse que je ne saurais pas toujours expliquer parce que à quelques kilomètres de là, c'est déjà différent, mais c'est la combinaison qui nous permet de pouvoir offrir à la fois des vins expressifs, donc des vins qui vous parlent quand vous les avez en bouche, équilibrés, harmonieux, qu'on prend du plaisir à voir. C'est pas des vins non plus ultra compliqués. C'est des vins séduisants, des vins qui vont plaire à la grande majorité du public.
D'accord. Voilà. Et ça, c'est pour le vin. Et est-ce que d'un point de vue sol, est-ce qu'il y a une homogénéité des sols sur l'appellation ou est-ce qu'il y a un petit peu de tout?
Alors, il y a au moins trois sols différents, mais je dirais qu'essentiellement, ça va être argilo-calcaire. Alors, il y a des zones où il y a davantage d'argile et de sable quand on va se rapprocher du Rhône. Hein, voilà, mais c'est essentiellement argilo-calcaire avec des galets roulés ou avec des éboulis parce que Grignan, c'est une mosaïque de terroirs et c'est une mosaïque de vignes. Il n'y a pas que de la vigne sur ce territoire. Il y a aussi les chênes truffiers, il y a aussi la lavande et c'est vrai qu'il n'y a pas d'énormes étendues de vignes sauf sur un ou deux secteurs. Donc c'est déjà très joli à voir, il y a beaucoup de collines.
C'est vrai que c'est ça qui fait la beauté de vos paysages, hein, c'est aussi assez varié et qu'il y a aussi un peu de polyculture.
Voilà, c'est assez charmant. Hein. Alors, assez
je confirme, il n'y a pas de problème.
Donc puisque les chênes truffiers et la lavande, bah, heureusement il ne leur faut pas trop d'eau. Voilà, mais ça fait vraiment un paysage chamarré là, qui est vraiment très joli. Et les vins, ils sont sur le charme, sur la finesse, sur l'élégance, l'expression aromatique. Voilà, vous en avez un dans le verre, vous voyez qu'il tient bien en bouche, tout en gardant son équilibre.
Il est superbe.
Voilà.
Est-ce que dans les efforts justement sur l'amélioration de la qualité, il y a une démarche ferme sur les cercles, enfin la façon vertueuse de travailler les sols, notamment.
Oui. Oui. Je vous dis juste une petite chose dans le cahier des charges, parce qu'on en a parlé un petit peu sur l'encépagement et sur les rendements. Il y a aussi une chose importante, c'est que sur le cahier des charges, donc il y a 10 ans maintenant, donc un petit peu en avance par rapport à ce dont on va parler après, on a interdit le désherbage total. Donc il y avait l'obligation de travailler au moins l'interrang. Voilà. Donc on pouvait désherber au pied, hein, sur le rang, mais l'interrang était obligatoirement travaillé. Voilà, donc ça c'était quand même un pas avant. Et enfin, et surtout,
une façon de réduire le recours à la chimie, aux produits type glyphosate.
Tout à fait. Et pareil. Et donc on a là, bien sûr, un organisme de contrôle qui vérifie que tout ça se passe bien, qui contrôle 20% du territoire planté tous les ans. Et nous avons rétabli une commission technique interne qui est chargée de contrôler l'ensemble de la production avant qu'elle soit mise sur le marché. Une espèce de labellisation par une commission indépendante dans laquelle il n'y a pas de vigneron pour être sûr qu'elle soit bien indépendante. Voilà. Et donc ça, c'est nous faisons notre propre autocensure. Et nous menons ça à bien depuis 10 ans et c'était un moyen de dire aux vignerons qu'il ne fallait pas seulement nous faire des promesses, qu'il fallait les tenir. Voilà.
Alors justement, quand on regarde en arrière, parce que voilà, 10 ans de travail, c'est une appellation qui a émergé, qui existait déjà, on l'a dit, Coteaux du Tricastin, mais Grignan a vraiment émergé sur ces 10 ans. Est-ce que d'abord vous êtes satisfait du bilan, et puis est-ce que les vignerons qui vous ont accompagné dans l'aventure le sont aussi, et puis surtout est-ce que vous voyez encore des axes d'amélioration, des projets pour les prochaines années à venir? Alors c'est plus vous qui êtes le président de l'appellation, vous avez passé la main, mais vous êtes encore très impliqué.
Bien sûr. Donc, la réussite du changement de nom est incontestable. Parce que je dois dire qu'au départ, beaucoup de gens doutaient. Dans votre métier aussi, beaucoup. Chez les professionnels du vin aussi. Et finalement, au bout de 2 ans, dans les 2-3 ans, tout le monde finalement s'est rendu compte que, effectivement, notre décision était bien motivée et qu'on avait fait des efforts suffisants pour qu'on puisse nous regarder d'un autre œil, voilà. Et je pense que la petite taille aussi de l'appellation, cette aventure un peu singulière, a attiré beaucoup de sympathie. Enfin, c'est ce que je crois voir et ce que j'espère. Alors, c'est une réussite, mais de là que ce soit une réussite totale, il y a quand même de la marge. Je vais dire que pour les caves particulières, en général, c'est vraiment une belle réussite. Voilà. Parce que les caves particulières, elles font leur propre, propre promotion, elles font leur propre distribution.
Et, c'est et les donc, vignerons qui sont, porté. Juste pour préciser, caves particulières, vous, les vignerons qui sont à leur compte, qui font leur propre vinification, par opposition aux caves coopératives.
Voilà. Exactement. Et donc, on a quand même une petite force commerciale, souvent déléguée à des agents commerciaux, mais donc on essaye de maîtriser notre force commerciale, et donc on va avoir une impulsion directe sur ces forces commerciales qui vont transmettre notre message, sans parler du message qu'on est capable nous-mêmes avec notre famille de transmettre. C'est plus compliqué pour les caves coopératives parce qu'elles n'ont pas cette force, elles passent par des négociants et elles passent par des acheteurs de vrac, par les grandes surfaces et donc le message qui est important pour mettre en avant le vin et l'appellation, il passe mal et donc on voit aujourd'hui qu'il y a un petit décalage malgré les efforts qualitatifs faits par les coopératives qui souffrent d'autant plus que quand la situation devient difficile comme cette année.
Mais est-ce que la valorisation
il y a pas la mobilisation derrière, voilà.
Est-ce que la valorisation du vrac est quand même manifeste, non, sur ces 10 dernières années?
Ah, on a plus que doublé la valeur du vrac par rapport à 2010.
Parce que les indicateurs, à mon sens, du succès, c'est peut-être la part de l'export, la progression probablement de l'export, oui. La présence sur les grandes tables. Et puis peut-être aussi, j'avais une question par rapport à ça, c'est est-ce que vous attirez des nouveaux vignerons? Est-ce que de nouveaux domaines se créent? Combien coûte un hectare? Est-ce que le prix de l'hectare a augmenté? Oui. Enfin, c'est tout un tas de questions que je me pose par rapport à l'attractivité.
Il y a quelques signaux globaux qui sont positifs, hein, donc comme le prix du vrac, je vous dis qu'il n'y a plus que doublé, l'export qui est passé de 10 à 30%, des nouveaux vignerons qui s'installent. Des jeunes qui se lancent, qui sortent de la coopération, qui s'installent en cave particulière comme indépendants et qui s'en sortent très bien. Donc, le tout est de porter le message, le tout est de voilà d'avoir des ambassadeurs pour qu'on ouvre une bouteille parce que le meilleur ambassadeur, c'est le vin lui-même, celui qui est dans la bouteille. Et si la qualité est bonne, le consommateur reviendra. Moi, j'aurai tout un tas d'exemples sur la grande épicerie à Paris, par exemple, qui a 5 références de nos vins et qui nous passe commande tous les mois et demi.
Ah oui, donc, bon marché, c'est pas rien.
Voilà, exactement, c'est pas rien, c'est une belle vitrine. Et pourtant, on n'a pas un promoteur derrière chaque rayon de vin. Mais c'est que le vin a été découvert et que la qualité fait que le client revienne. Donc il y a beaucoup d'exemples de ce genre, mais c'est vrai qu'il faut faire un premier effort. Voilà, il faut en parler, il faut ouvrir une bouteille pour que le consommateur le découvre, ou alors en parler comme on le fait ce soir pour qu'il y ait davantage d'aventuriers du vin, de curieux, hein, qui aient envie de découvrir une nouvelle appellation et qui avec laquelle ils se feront plaisir.
Moi je trouve que c'est un peu ça que vous avez réuni, alors pas vous tout seul, mais cette dynamique que vous avez réussi à créer à Grignan, moi je crois qu'on a envie de vous féliciter pour ce travail, parce que clairement vous avez mis Grignan sur la carte des appellations qu'il faut regarder, auxquelles il faut s'intéresser. Puis je trouve que ça répond à deux choses. Pour les consommateurs, comme je disais un peu dans mon intro, on a toujours envie de découvrir des choses nouvelles. Et puis si on vous dit, il y a un domaine que tu connais pas, qui est dans le Rhône, qui est proche du Rhône, en Drôme provençal, ça tout de suite ça attire l'intérêt. Et vis-à-vis des médias, vous aviez cette remarque du fait que les médias étaient pas forcément très à l'écoute. Finalement, les médias, ce qu'ils aiment, c'est qu'on leur raconte une histoire. Et là, vous avez vraiment construit évidemment les vins, parce que c'est au cœur d'abord du projet, faire des vins et monter en qualité. Puis c'est aussi raconter une histoire de cette petite appellation du nord, du sud. Vous avez fait ce qu'il fallait pour que l'appellation grandisse, en fait.
Tout à fait, j'espère. Alors j'espère qu'on est au début de l'aventure, parce qu'il y a encore des choses à faire. Quand on sait qu'un hectare de vigne à Grignan ne coûte que 15 000 euros, c'est certainement pour des investisseurs hein, le meilleur placement possible dans les vins. Parce que,
le message est passé.
C'est sûr qu'à Châteauneuf, j'entends parler de 700 000 euros, effectivement, voilà. Ça fait une petite différence.
À 15 000 euros, on peut faire de très jolis vins et les valoriser très correctement. Donc voilà. Je lance un appel par votre
bah écoutez, on transmet voilà. En tout cas.
C'est tentant.
Bravo pour ce travail, bravo pour votre vin, le blanc. On n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est vrai que c'était superbe. Et puis on invite les gens à découvrir Grignan. Je crois qu'il y a aussi une grosse dynamique qui a accompagné ce développement. Vous avez parlé des chaînes truffiers, il y a également le no-tourisme où vous avez invité les vignerons à développer cette proposition d'accueil du public.
On les a aussi embarqués dans cette voie parce que ça rentre dans la démarche justement du contact entre le vigneron et le public. Et il faut absolument se lancer là-dedans. Alors, certains d'entre nous le faisaient depuis longtemps hein, sans utiliser ce mot-là, mais c'est la meilleure des choses. Le contact entre le consommateur et le vigneron, c'est toujours quelque chose de formidable pour les deux, souvent pour les deux, parce que les amoureux du vin sont souvent extrêmement sympathiques. Et le vigneron aime bien parler du vin quand il a l'écoute attentive de consommateurs. Voilà.
Avant de vous libérer,
On a très bientôt justement là le week-end, le fascinant week-end qui est le 17 et 18 octobre, je crois, sur l'ensemble du territoire français. De la vallée du Rhône et de Grignan-les-Allemands, bien sûr. Voilà.
D'accord. Tout le monde pourra aller visiter un petit peu les domaines. Et avant de vous libérer, j'ai une question dans l'évolution du cahier des charges, notamment. Est-ce que il y a une dimension, vous avez parlé du fait de limiter le désherbage. Est-ce que vous voulez aller plus loin sur la quantité d'intrants? Est-ce qu'il y a déjà beaucoup de vignerons qui sont en bio ou pas?
Oui, il y a beaucoup de vignerons. Il y a beaucoup de petits vignerons qui sont en bio, petits par la taille de l'exploitation. J'ai moi-même une grande exploitation. Je suis passé en HVE l'année dernière, haute valeur environnementale. J'ai déjà 50% de mes vignes, toutes les nouvelles vignes, sur lesquelles j'utilise plus de désherbants. Et je pense que d'ici 2 ans, il n'y aura plus de désherbants chez moi. Hein, je travaille avec donc des intercepts, hein, des charrues élevées intercepts. Par contre, la difficulté quand on a une exploitation assez grande, c'est la protection du vignoble. C'est l'oïdium, c'est le mildiou. Oui. C'est compliqué. Alors, quand on a quelques hectares, qu'on est soi-même sur son tracteur, qu'on est très investi, qu'on peut surveiller, réagir, même un samedi, même un dimanche, même de nuit, c'est jouable. Lorsque on a une grande exploitation et des salariés,
c'est plus compliqué.
Et qu'on n'est plus sur le tracteur, c'est plus compliqué.
Vous avez 80 hectares, c'est ça à peu près?
Voilà, c'est ça. Chez moi, c'est ça. Et donc, il y a un risque certain, quoi. Alors, on essaye d'utiliser des produits, je dirais, avec des intrants extrêmement réduits. Mais je pense qu'on y arrivera, hein. Malgré donc, ces réserves. Je pense que
le mouvement est en marche.
Le mouvement est en marche et personne ne va l'arrêter. Donc, moi, je dirais que pour ce qui nous concerne, je pense que dans 5-6 ans, on sera passé en bio. Voilà, on est dans une démarche progressive et prudente pour ne pas faire d'impair. Mais on y va tout droit, je pense.
Merci, voilà. Merci beaucoup Henri Bourg d'avoir accepté notre invitation.
Avec grand plaisir.
On va continuer nous.
Que j'aime parler du vin, donc.
c'est tant mieux. On va vous libérer parce que vous avez des obligations. Nous, on va continuer encore quelques minutes à parler de Grignan parce qu'on a ouvert une deuxième bouteille et là on est passé à la couleur rouge pour un vin Laurent qui est.
Ben la cuvée héritage du domaine. Bonnetto Fabrol.
Bonnetto Fabrol.
Oui. Voilà, oui, Bonnetto Fabrol. Alors, et voilà, on est sur de la Syrah.
Un jeune vigneron qui s'est installé il y a une dizaine d'années et qui travaille très très bien.
Et là, on est sur une cuvée 100% Syrah.
Donc ça boucle exactement avec la conversation qu'on vient d'avoir. Merci beaucoup Henri Bourg.
Super, bonne soirée.
Et bravo pour votre travail. Au revoir.
Merci, au revoir.
Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des invités au téléphone.
Oui.
C'est bien de les avoir aussi sur place, mais pour avoir les vignerons, on sait que c'est quand même plus pratique.
Très très motivé de parler de son aventure et ça fait plaisir à entendre. Il m'avait beaucoup séduit quand j'étais allé sur place parce que sa démarche, bon, c'est c'est avant tout un chef d'entreprise. Hein. Henri Bourg a été patron de filiale de Pernod Ricard pendant plusieurs années. On sent l'homme d'affaires qui a su donner une impulsion à cette appellation. Et je trouve ça assez impressionnant.
Mais c'est vrai que c'est une appellation, là où je le rejoins, c'est une appellation qui a un potentiel de fou, parce que c'est... Alors je l'ai déjà dit, mais c'est magnifique. De deux, il y a vraiment une variété dans les paysages, c'est-à-dire que t'as à la fois des vignes en plaine, t'as des coteaux, et puis t'as presque de la moyenne montagne. Hein. Dès que tu vas un petit peu plus vers l'est, ça monte. Hein. Voilà, exactement. Donc ça peut monter jusqu'à 600 mètres d'altitude, ou enfin en moyenne, je crois que c'est 500-600 mètres. Donc ça a vraiment un potentiel pour faire des vins de grande classe, et en plus c'est hyper charmant. Je veux dire, tu vas dans le moindre bled, t'as un petit marché, avec des petits légumes qui vont bien et tout.
La Provençale, quoi.
Ouais, voilà.
C'est vraiment un appel aux vacances dans un contexte aujourd'hui où on se demande si on va pouvoir partir au-delà de 100 km aux prochaines vacances. Justement.
Mais non, mais non.
On a envie d'aller à Grignan.
Déprime pas Laurent, tout va bien.
Non. Aller à Grignan, en tout cas, c'est joli. Mais les vins sont très jolis.
Là, on enchaîne sur un rouge. Là, on m'a donc dit un 100% Syrah de chez Bonetto Fabrol. Bonetto Fabrol, c'est un des nombreux domaines de Grignan-les-Adhémar qui est très impliqué sur le no-tourisme. Ils ont des très jolis gîtes. Donc, si vous cherchez une destination de vacances, je vous donne même l'adresse de
on va se reconvertir en office du tourisme.
Je pense que
si vous avez 15 000 euros sur vous pouvez acheter un hectare.
Je pense que ça fait partie du plaisir du vin, c'est aussi d'aller découvrir les paysages. Les paysages sont magnifiques, tu l'as dit.
Ouais.
Les gens sont accueillants. Il y a des vieilles pierres un peu partout. Hein. Le village de la Gare d'Adhémar fait partie des plus beaux villages de France. Grignan, le château est absolument magnifique. Sans parler du fait qu'on peut manger de la truffe et que un grand nombre de domaines viticoles sont aussi des domaines qui ont des chênes truffiers et qui encouragent au cavage.
Quelques domaines d'ailleurs. Quels sont les domaines que tu recommanderais
un des plus peut-être dynamiques, ou qui a une vision un peu à 360 degrés avec gîte, cavage, vin, et puis la capacité de manger sur place aussi des repas à base de truffes. C'est le domaine de Montine. Donc on a cité Bonetto Fabrol avec des dégustations.
Moi, je recommande le domaine Serre des Vignes.
J'aime beaucoup Serre des Vignes aussi.
Qui est le seul que j'ai retenu et qui est super. Ils font aussi des abricots et du lavandin, qui c'est un peu les trois cultures classiques dans le coin. Et puis, moi, quand j'y étais allé, j'étais reçu par les vieux du vignoble, qui n'étaient pas censés être là. Mais bon, le jeune était occupé, alors c'est eux qui m'ont fait visiter. Et puis je suis reparti avec deux cajots d'abricots, et puis la fameuse la cuvée la Sarrazine qui est vraiment un petit bijou pour un prix très raisonnable, parce que ça Monsieur Bourg on l'a pas assez souligné, on est sur des tarifs quand même très très cool, parce que leur cuvée haut de gamme, donc au domaine de Serre des Vignes, la cuvée la Sarrazine, on est à 15 euros, et c'est ce qu'ils ont de plus cher, et sinon c'est entre 8 et 10 quoi. Donc c'est vraiment très bien. Et puis du même domaine, la cuvée secrète Syrah, là aussi 100% Syrah, qui est vraiment un rapport qualité-prix de ouf.
Après, j'aurais aussi une mention pour le domaine Rosel. Actuellement, Mathieu Rosel est le patron de l'appellation. Il a une petite trentaine d'années. Il est très, très dynamique, très impliqué. Et il propose un certain nombre d'activités non touristiques au dehors des vins. Les vins du domaine, évidemment. Le domaine qui date de 1464.
Ah oui, wow.
Voilà, petite histoire. Il faut savoir que c'est une région viticole depuis l'Antiquité, hein, donc il n'y a pas vraiment de surprise.
N'hésitez pas à visiter le musée du vin dans le château de Suze-la-Rousse, qui est très bien fait, qui est très didactique sur le côté justement ancien. Il y a des maquettes des exploitations romaines, etc. Enfin, c'est super bien foutu. Mais au-delà de ça, là, ce qu'on a dans le verre, alors, qu'est-ce que ça raconte ?
Alors, oui, j'allais vous le dire.
On a vraiment le défaut de la Syrah. On a un côté très réduit au début. Hein. Il faut
l'ouvrir bien avant.
Du temps. Il faut lui laisser du temps, et on l'a
pour
pas.
Pour les auditeurs, il n'arrête pas de touiller son verre.
On l'a pas assez préparé. J'en suis un peu déçu parce que j'aime beaucoup ce vin.
Non, mais il est quand même très bien. On est sur de la confiture de fraises, de la réglisse au nez. Et surtout, ce qui est cool dans cette appellation, c'est que la bouche reste fraîche. Là où souvent les vins du Rhône Sud peuvent être un peu pesants, voire lourdingues. Là, on est quand même sur de la fraîcheur, sur de la tension. Et il n'y a pas du tout ce côté écœurant que tu peux avoir sur des grenaches super mûres.
On est d'accord.
Voilà. Donc là, d'accord. C'est frais, c'est vif et puis on boit un verre de verre, on n'est pas écœuré.
Absolument, absolument. Mais bon, j'aurais préféré le carafer un peu et avoir
oui, c'est lui un avoir donné
le temps de développer tous ces arômes.
T'es au top tout le temps au wine therapy, Laurent. Ouais, tu peux avoir un soir de faiblesse, c'est pas grave.
C'est une histoire d'exigence, qu'est-ce que tu veux.
Parce qu'on n'est pas dans tes murs, là, c'est pour ça, t'es perdu.
Ouais. Bah, on n'avait surtout pas de carafe.
Note pour plus tard, acheter une carafe. Apporter une carafe plutôt. Merci, messieurs. Est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce qu'il y a encore des choses à dire sur cette petite appellation Grignan? Au passage, je remercie l'agence Claire de Lune qui fait un bon travail et qui nous a envoyé quelques échantillons qui nous ont permis de sélectionner les vins qu'on goûte ce soir et qui fait la promotion en gros de cette appellation. Est-ce que voilà, vous avez parlé des autres domaines. Il y a d'autres appellations sans doute comme ça qu'on va aller dénicher en France. Déjà, tu nous avais sorti Brézème, Laurent.
Oui, bah, en fait,
un petit peu plus au nord. C'était le sud du nord.
Le clin d'œil, c'est que c'était le sud du nord. Brézème, là, on est dans le nord du sud avec Grignan et Zadémar. C'est vrai que cette vallée du Rhône me plaît beaucoup. Maintenant, j'ai plein d'autres envies de vous faire découvrir des appellations peut-être un peu moins connues. Et j'espère que cette quatrième saison nous permettra de le faire.
En tout cas, c'est intéressant de voir comment les vignerons se sont pris en main. Ils ont raconté une nouvelle histoire. Ils ont décidé de mettre des choses en place. Et 10 ans plus tard, ils en récoltent les fruits.
J'en discutais avec Mathieu Rosel, justement. Et il y a quelque chose qui m'a marqué dans ce qu'il me disait. C'est que ce changement de nom a ramené de la fierté aux vignerons du coin. Parce qu'ils avaient vraiment honte.
Du
Tricastin et de ce que ça portait. Et là, ils ont, ça leur a donné vraiment un souffle et ça leur a redonné leur fierté.
Bravo aux vignerons de Grignan-les-Adhémar. Merci à vous, Laurent. Merci Bertrand.
Merci à toi. Ouais.
Une bonne saison à la grosse bouffe.
Eh ben, merci, c'est
une
gentil.
Bonne rentrée au Wine Therapy.
Merci.
Allez boire des vins dans ce bistrot si vous passez par Paris ou si vous y résidez. On se retrouve dans une paire de semaines pour continuer sur le chemin des vins qu'on découvre. Le prochain sujet est un poil technique. Je l'annonce déjà. Allez, bye bye bye.
Salut.
Ciao.